Actu SF, les podcasts.
Bien, bonjour à tous. Nous sommes réunis dans cette salle à l'occasion du centenaire de la naissance de Theodore Sturgeon. Donc, je vais vous rappeler juste en quelques mots qui est Sturgeon, et ensuite je vais vous présenter nos intervenants et leur donner très rapidement la parole. Theodore Sturgeon est né en 1918 aux États-Unis. Quand il a 3 ans, ses parents se séparent. Lui reste avec sa mère qui va se remarier, et les relations de Theodore avec son beau-père seront très particulières et donneront naissance à un texte autobiographique important dont on parlera probablement tout à l'heure. À l'âge de 13 ans, Théodore fait de la gymnastique et il envisage de travailler intensivement la gymnastique dans le but d'entrer dans un cirque. C'est quelque chose qui le marquera beaucoup, et le monde du cirque est un thème qui apparaîtra dans un certain nombre de ses écrits majeurs. Malheureusement, 2 ans plus tard, il est obligé d'abandonner cette ambition à cause de problèmes de santé. Quand son frère a 18 ans, leur beau-père, avec qui les rapports étaient très difficiles, met son frère à la porte. Et là-dessus, Theodore Sturgeon décide lui aussi de quitter le domicile familial. À ce moment-là, il entre dans la marine. Il travaille 2 ans à peu près, je crois, dans la marine marchande, univers qui va lui inspirer quelques nouvelles. Et puis, très vite, il écrit, et assez vite, il va commencer à publier des récits dans des pulps, en particulier dans la revue Unknown, puis également dans les revues Astounding, Science Fiction, et puis un peu plus tard dans Galaxy. Et très vite, il s'inscrit dans ce qu'on appellera l'âge d'or de la science-fiction américaine. Il publie au total plus de 200 nouvelles et 2 romans, 2 chefs-d'œuvre dont on va parler, qui sont Cristal qui songe et Les plus qu'humains. En France, il est publié assez tôt, dès les années 50, dans les premiers numéros de la revue Fiction, mais il sera célébré notamment dans les années 70 par un certain nombre d'anthologies dirigées par Alain de Rémieux d'une part et Marianne Lecomte d'autre part, et puis sera célébré comme invité au Festival de science-fiction de Metz, où il viendra et il recevra un accueil chaleureux du public français. Et il décède en 1985. Pour évoquer donc aujourd'hui les 100 ans de Theodore Sturgeon, nous avons d'abord Noël Sturgeon. Donc vous êtes universitaire, vous êtes également la fille et exécutrice testamentaire de Theodore Sturgeon. Vous avez co-dirigé avec Paul Williams l'édition intégrale des nouvelles de Theodore Sturgeon aux États-Unis en 13 volumes. Nous avons également avec nous Jérôme Didelot. Jérôme, vous êtes consacré cette année à essayer de faire en sorte qu'en France on célèbre Theodore Sturgeon, et en particulier vous avez dirigé cet ouvrage dont on va parler et qui réunit un certain nombre de textes très intéressants et très divers autour de Theodore Sturgeon, de son œuvre et de son legs. Bon, alors la première question que j'ai envie de vous poser, 100 ans après la naissance de Sturgeon, Noël Sturgeon peut-être d'abord, pourquoi aujourd'hui l'œuvre de Theodore Sturgeon mérite-t-elle toujours d'être lue et d'être lue par de nouveaux lecteurs aujourd'hui ?
Why, in your opinion, does your father's work still deserve to be read today and specifically to be read by young people?
It's a good question. I first want to say thank you to Léa Topiales for the invitation facilitated by Jérôme. I really was honored to be invited, and very appreciative of the interest in France in Sturgeon. He loved France. He came here in 1976 for the Metz Festival, and then came several more times and just loved the country and the people.
Ben, merci beaucoup pour commencer au Festival des Utopiales pour cette invitation facilitée par Jérôme, et je suis très content d'être ici parce que Theodore Sturgeon adorait la France. Il est venu en France en 1976 pour le Festival de Metz et ça lui a fait une forte impression.
So in terms of the question, I think that my father's work was, he was of the generation of the Golden Age, Robert Heinlein, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, but he was very different from those writers because he was interested in character, he was interested in the evolution of the human, he was interested in exploring difference, and his characters were often misfits. He was interested in social justice, he was interested in eliminating repressions around sexuality and the body.
Effectivement, si Theodore Sturgeon fait partie de l'âge d'or de la science-fiction, tel qu'il est caractérisé par des écrivains comme Robert Heinlein, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, il était en même temps très très différent d'eux parce que son principal centre d'intérêt, c'était l'être humain, les marginaux, l'évolution de la nature humaine, et il était très vivement opposé à tout ce qui était oppression. C'était un guerrier de la justice sociale, favorable à l'égalité des sexes et à tous les combats que nous connaissons aujourd'hui.
He was against war, nuclear weapons, wrote several stories that were important around that issue. Thunder and Roses is one, Memorial is another. And he was also an anti-fascist, so it was very important to him. He was very scared by, for instance, in the United States, McCarthyism. And his story, Mr. Costello Hero, is something everybody should read today, I think, because it describes how a dictator comes, gets support from people and divides people on the basis of difference.
Theodore Sturgeon était aussi un pacifiste. Il a écrit pas mal d'histoires sur la menace, sur la bombe atomique et la foudre et les roses, Mémorial, etc. C'était aussi un antifasciste et elle recommande vivement sa nouvelle Monsieur Costello Hero qui montre, il y a déjà très longtemps, comment un démagogue parvient au pouvoir en dressant les gens les uns contre les autres.
Jérôme, lire Sturgeon aujourd'hui, publier peut-être Sturgeon aujourd'hui, parce qu'il y a quand même un paradoxe cette année, c'est que c'est vrai que Sturgeon a été un auteur très publié et célébré en France dans les années 70, c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui. Alors il faut signaler, parce que c'est un événement, la reparution chez J'ai lu de Cristal qui songe, livre dont j'espère on va prendre le temps de parler. Donc ce roman très important reparaît dans une traduction révisée. Maintenant, c'est un cas isolé. Aujourd'hui, les recueils de nouvelles de Sturgeon, à ma connaissance, sont tous épuisés depuis longtemps. Bon, ça peut être qu'en fin de table ronde, on lancera un appel aux éditeurs qui sont dans les environs pour que quelque chose se passe. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à des lecteurs qui n'ont jamais lu Sturgeon, qui vont voir Cristal qui songe à la librairie pour leur donner envie, par exemple, d'acheter, de lire ce livre ?
Alors, avant de vous répondre, je voudrais faire un tout petit préambule et je voudrais surtout pas monopoliser la parole parce qu'on a la chance d'avoir Noël Sturgeon avec nous et c'est vraiment exceptionnel. Moi, je voudrais vous dire que je suis assez étranger au monde de l'imaginaire. Je travaille dans l'audiovisuel, je suis musicien. Il se trouve que j'ai lu beaucoup de SF et de fantastique adolescent parce que j'ai grandi à Metz où il y a eu ce festival. Alors, j'étais trop jeune pour rencontrer Sturgeon quand il est venu en 1976. Mais voilà, au début des années 80, j'étais adolescent, j'ai été imprégné de ce festival qui a eu lieu de 76 à 86. Et ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est que je me suis associé à deux personnes qui sont du monde de l'imaginaire pour faire cette publication, que sont Florence Dolizy et Benoît Domis, deux traducteurs de ma région, pour un peu justement raviver l'intérêt autour de Theodore Sturgeon. Moi, j'y suis revenu régulièrement au cours de mon parcours, parce que même si j'ai un peu décroché, on va dire, entre guillemets, des livres issus du monde de l'imaginaire, Sturgeon, c'est un auteur différent, Noël l'a expliqué. Les thèmes qu'il aborde sont finalement des thèmes assez universels qui ne sont pas propres au monde de l'imaginaire et du fantastique et qui sont toujours d'actualité, comme vous avez pu le comprendre. Donc, je pense que se replonger dans Sturgeon aujourd'hui, c'est pas du tout anachronique. Et je pense qu'à un moment, sur un point de vue plus scientifique, où on arrive à un tournant éthique, puisque je crois qu'on est censé parler du corps humain dans ce festival, c'est un sujet qui a été vraiment très abordé par Theodore Sturgeon, notamment dans l'un de ses chefs-d'œuvre les plus qu'humains, je pense qu'on en parlera. Mais justement, il y a dans d'autres nouvelles aussi, il y a cette question du rapport entre le corps et l'esprit, qu'est-ce qu'on fait de son corps, enfin, la liberté de son propre corps. Il y a un livre célèbre de Sturgeon où les hommes, bon, je vous donne un peu, bouchez-vous les oreilles, c'est un peu le twist du livre, mais en tout cas, les hommes ont décidé d'abolir le genre. Ça se rapproche un petit peu d'un livre célèbre d'Ursula Le Guin. Mais bon, en tout cas, ce sont des questions qui sont toujours très présentes aujourd'hui. Je suis bavard. Hein.
Merci. Moi, je vous propose de parler de Cristal qui songe. Oui, j'en ai.
Je m'excuse, je prends la parole. Alors, je profite de cette interruption pour rassurer les personnes qui ont vu le nom de Pierre-Paul Durastanti et qui ne le reconnaissent pas. Malheureusement, il est retenu chez lui par une maladie, donc je suis Jean-Daniel Brecq, je me suis proposé pour le remplacer. Et je vous permets de couper la parole à Hervé pour vous recommander, entre tous les textes publiés dans ce volume, justement un petit texte de Pierre-Paul qui explique quel a été son travail, avec exemple à l'appui. Donc plutôt que de lire un extrait, le début, pour vous donner une idée, si vous êtes d'accord, je vais vous lire les deux versions françaises, c'est des petits paragraphes assez courts, la version de la traduction des années 1950 et la version retravaillée par Pierre-Paul. Je vais essayer phrase par phrase. L'enfant s'était fait surprendre dans un coin du stade scolaire alors que se livrait à un acte répugnant. On l'avait renvoyé chez lui en l'expulsant ignominieusement de l'école. Version Pierre-Paul. On avait surpris le garçon à commettre un acte répugnant sous les gradins du stade de l'école et on l'avait renvoyé chez lui. Deuxième phrase. À cette époque, il avait 8 ans. Cela faisait plusieurs années déjà qu'il pratiquait ce vice. Âgé de 8 ans, il faisait ça déjà plusieurs années. Troisième phrase. En un sens, c'était dommage. Il était gentil, ce gosse. Il était même plutôt beau, quoiqu'il n'eût rien d'extraordinaire. Dans un sens, c'était dommage. Il était gentil, ce gosse. Et mignon. Quoique sans rien d'extraordinaire. Bon, je ne vais pas insister, mais vous voyez à quel point cela peut être utile de reprendre un texte comme ça. Vous avez déjà pu vous rendre compte que la traduction de Pierre-Paul coulait beaucoup mieux, beaucoup moins d'adverbes en eumant, qui alourdissent un peu, surtout essayez de le lire à haute voix comme je l'ai fait. Et personnellement, moi j'ai lu Cristal qui songe en français quand j'étais jeune. Bien des années après, quand j'ai appris à lire en anglais, ben, je l'ai lu en anglais, ben, là je pense que je vais le relire en français. Désolé Hervé.
Merci Jean-Daniel. Non, mais je te prie de m'excuser de ne pas t'avoir présenté. Comme j'ai préparé des petites fiches et que tu n'es pas dedans, c'est pour ça que je n'ai pas dit qui tu étais, parce que je suis trop collé à mes.
Bon, il s'en est bien sorti tout seul.
Oui, c'est parfait. Alors, Christophe qui songe, moi, ce que je veux, c'est qu'on parle un petit peu du livre. Donc, effectivement, le démarrage du roman, il est. On est dans un univers extrêmement quotidien. Un enfant rentre chez lui. Il a fait quelque chose apparemment abominable à l'école. Et il est très angoissé parce qu'il se doute bien quand il va rentrer chez lui, ses parents seront déjà au courant et qu'il va passer un sale quart d'heure. Et c'est effectivement ce qui se passe. Il passe un tellement mauvais quart d'heure que, à la fin du chapitre, il s'enfuit de chez lui. Ça, c'est le point de départ. Cristal qui songe, Noël Sturgeon, en quelques mots, ce roman, qu'est-ce qu'il raconte, de quoi il parle et qu'est-ce que va trouver dedans le lecteur d'aujourd'hui qui n'a jamais lu Sturgeon et jamais ouvert ce livre ?
Same question about Dreaming Joe Wells. What is it about? What is it about? And what the young reader who had never heard of Sturgeon will find?
Well, much of Sturgeon's work deals with children. Marianne Conte is one of the few editors that recognize that. She put together an anthology called Sturgeon's Children. In particular, the difficulties Sturgeon children have in terms of dealing with abuse and being bullied and being put down, because he himself had a very difficult childhood. So Dreaming Jewels is one of the most autobiographical of his novels.
Les textes de Theodore Sturgeon portent beaucoup sur les enfants. Et Marianne Lecomte a été une des premières à s'en rendre compte, puisque parmi les nombreux recueils qu'elle a consacrés à l'auteur, il y en a un qui s'intitule « Les enfants de Sturgeon ». « Cristal qui songe » est le plus autobiographique de ses romans. parce que Sturgeon était aussi préoccupé par les abus qu'on peut subir aux enfants comme ceux qu'il a subis dans sa jeunesse.
So it is a story about a young boy who grows up in a very with a very critical and abusive stepfather and a mother who is sort of just out of it. The boy runs away and joins a circus, and he discovers he's actually a creature made by two jewels. So the dreaming jewels are another entity. It's not clear that they're alien, but they exist around, and they sometimes make copies of things. And so the young boy discovers after a long time that he can change his body any way he wants. And that leads him to a very satisfying and horrible revenge against his stepfather in the middle of the book. So I think it's something that a young person would identify with in some ways.
En fait, dans Cristal qui songe, je raconte l'histoire d'un petit garçon qui vit avec un beau-père brutal et abusif et une mère effacée qui fait semblant de rien. Et il finit par s'enfuir pour rejoindre un cirque et il découvre l'existence de cristaux qui rêvent et qui rêvent des organismes, qui créent des organismes par leur rêve. Et il s'aperçoit qu'il est lui-même de ces organismes et qu'il a le pouvoir de transformer son corps, ce qui va l'amener à peu près au milieu du bouquin à exercer sur son beau-père une vengeance assez assez hard, si je me souviens bien.
But it is also about, and this is a theme in Sturgeon, the potential of human beings, of humanity, and particularly in bringing together people who are oddballs and misfits and are not part of society. So the members of the carnival are all outcasts in different ways, but he brings they're brought together and they're more human, they're more ethical than the people who look down upon them.
Un autre thème de ce livre, comme souvent chez Sturgeon, c'est le potentiel de l'être humain. Et Cristal qui songe montre aussi comment, en se rassemblant des êtres qui sont rejetés par la société, soit parce qu'ils sont monstrueux ou handicapés, ou tout simplement marginaux, peuvent parvenir à quelque chose de supérieur et aboutir à créer une éthique qui fait d'eux ce qu'on appellera les plus qu'humains dans un autre bouquin.
Je me permets juste de rajouter quelque chose parce qu'on avait la chance d'avoir Marianne Lecomte avec nous à Nancy il y a deux jours. Et évidemment, elle a dit à propos de ce livre Cristal qui songe qu'il était bien sûr, comme vous l'avez compris dans la petite présentation d'Hervé, une sorte de règlement de compte avec son père. Un règlement de compte qui s'est matérialisé de façon plus manifeste et formelle dans un texte autobiographique qui s'appelle Argyle, dont on parlera peut-être plus tard. Voilà.
Merci. Alors, il y a beaucoup de personnages d'enfants dans les textes de Sturgeon, on l'a dit. Généralement, ce sont des enfants différents, des enfants déviants, parfois même des enfants monstrueux. Et d'ailleurs, plus largement, les personnages de monstres sont également très présents dans un certain nombre de récits qui sont plutôt des récits d'horreur, mais pas toujours. Et moi, il m'est arrivé de me demander, en lisant ces textes, ce que ça signifiait de la part de leur auteur. Parce que Sturgeon décrit ses enfants et ses monstres avec une très grande empathie. Et je me suis demandé si lui-même, quand il crée ses personnages, est-ce qu'il le fait parce qu'il s'est senti lui-même différent, sinon monstrueux, quand il était enfant ? Ou si, à l'inverse, ça veut dire que pour lui, le monde de l'enfance est quelque chose d'inaccessible auquel, en tant qu'adulte, il ne comprend rien.
Thank you, Harry. You noticed by reading Sturgeon that he's as acute in describing children and describing monsters. So does he identify the two? And if so, what? Is it because childhood was a foreign world to him, because he thought children were monsters or monsters or another kind? Exactly what you said, but this is a gist of it.
It's a funny question to ask the child of someone. Did he think?
I know
maybe he thought I was a monster. Well, one of the qualities of his writing, and he was a beautiful writer, which was also a little unusual in his time in science fiction, is that he could inhabit the persona of someone who was very different or very marginal, and make you sympathetic with that person, even when, as often happened, the person did something monstrous.
En fait, Sturgeon, en tant qu'écrivain, en tant que styliste, était très, très atypique de la science-fiction de cette époque, hein, où on, les écrivains qu'on a cités, comme Henley, Asimov, visaient avant tout à l'efficacité narrative, hein, sans fioriture. Et il avait énormément d'empathie avec tous ses personnages. Il rentrait à l'intérieur, et c'est pour ça que ces monstres paraissent sympathiques, même quand ils ont fait des choses horribles.
For example, his story It, which is about a monster that's formed out of the muck of a swamp, and actually is recognized as an influence on comic books, Swamp Thing, the Hulk, so forth, is a monster. But when he depicts the thinking of this creature, it is he is sympathetic. You're on the one hand, it's a horrible, scary description. On the other hand, you understand this creature.
Par exemple, une célèbre histoire qui s'appelait Hit en anglais et qu'on a appelé ça en français, c'est très original, dit Stephen King. C'est l'histoire d'une créature qui a eu énormément d'influence, qui a été souvent reprise en bande dessinée, notamment c'est à l'origine de Swamp Thing, qui est en fait une créature façonnée à partir de la boue et qui est équipée, on ne sait pas comment, d'une conscience rudimentaire.
Or another example would be Bright Segment, which was made into a film, a French film, by Christian Challenge, and we screened it at Epinal and Nancy recently, which is a man who is mentally disabled and ends up rescuing a woman and taking care of her, but when she gets well and wants to leave, he injures her again so he could continue to take care of her. But you're so sympathetic to the man that this comes as a complete shock when that happens.
Autre exemple, Parcelle brillante, qui a été adaptée sous forme de téléfilm par Christian Challenge. On a quelques images dans cet ouvrage qui raconte l'histoire d'un homme un peu handicapé mental, une brute au sens premier du terme, même s'il n'est pas méchant, et qui trouve une femme blessée, qui la soigne petit à petit, et au fur et à mesure qu'il la guérit, en découvrant les gestes de la compassion, elle va beaucoup mieux, elle n'a plus besoin de lui, donc il la reblesse à nouveau pour pouvoir continuer à s'occuper d'elle. Et on rentre dans la tête de ce personnage, on a pitié de lui, il n'est pas horrifique.
Alors Jean-Daniel, tu citais Stephen King, je me permets cette petite parenthèse, ceux qui ont lu et vu Misery ont peut-être fait la connexion. Voilà, vous vous doutez bien que cette nouvelle des années 50, si je suis précis, est peut-être une source d'inspiration pour Stephen King, puisque c'est une séquestration et avec un final assez pathétique et déprimant côté Sturgeon.
Yeah. Another example is Bianca's Hands, which is such a beautifully written story. It's very poetic. You are wrapped up in it when you read it. It is about a man who falls in love with a woman who is extremely mentally disabled, but he falls in love with her hands. It comes to a very horrific end, and so much so that that story was the only story my father couldn't sell right away. An editor said, I will never publish a story written by someone who could think of this idea.
Donc, autre exemple, une histoire célèbre qui s'appelle Les mains de Bianca. C'est l'histoire d'un homme qui tombe amoureux d'une femme pareille, handicapée mentale, mais qui a des mains magnifiques. Et cette histoire se finit de façon si horrible que c'est la seule que Ted Sturgeon n'a pas réussi à placer tout de suite. Et il y a même un éditeur qui lui a dit « Je ne publierai jamais un écrivain capable d'écrire ces monstruosités ». Alors, je rajoute pour la petite histoire, hein, pour l'anecdote, qu'en fait, il y avait il a gardé ça, cette histoire, longtemps dans ses tiroirs. Et finalement, il l'a soumise à un concours qui était organisé par une revue anglaise et il l'a gagné. Il a battu Graham Greene.
So I don't know if I've answered your question. I think it's that he could write about love and about connection. Very interested in those questions between human beings, but he also could see the monstrous in humanity as well.
Donc en fait, conclusion, c'est qu'il pouvait parfaitement décrire l'amour chez les êtres humains, mais qu'il montrait aussi les monstres sous un jour sympathique.
Je vais me permettre un bref interlude et vous lire les premières lignes de cette nouvelle qui s'intitule « Ça, It », et dans lesquelles justement Sturgeon nous décrit de l'intérieur cette créature assez étrange. Ce sont vraiment les premières lignes de la nouvelle. Ça marchait dans les bois. Ça ce n'était pas né, ça existait. Sous les aiguilles de pin, les feux couvent, foyers ardents qui se consument sans fumée dans la terre. La chaleur, l'obscurité, la décomposition provoquent la croissance. La vie est une chose, la croissance une autre. Ça grandissait. Mais ce n'était pas vivant. Ça marchait sans respirer à travers bois et ça pensait, voyait. C'était hideux et fort, mais ça n'était pas né et ne vivait pas. Ça grandissait et se déplaçait sans vivre. Cette description continue un petit moment et puis cette première section de la nouvelle se termine par cette phrase terrible. Ça commença à chercher. Et la suite de la nouvelle, des personnages humains interviennent, et là, il y a un suspense terrible, c'est-à-dire que la première rencontre entre la chose et un être vivant, c'est un chien qui n'y survit pas, et puis il y a un couple avec une petite fille, et on se dit, mon Dieu, est-ce qu'à la fin, la petite fille aussi va rencontrer la chose, et que va-t-il se passer ? C'est un texte à la fois terrifiant et extrêmement surprenant dans la manière dont cette créature est décrite de l'intérieur, sans qu'il y ait jamais d'effet horrifique de premier degré. On marche avec elle dans ses bois, à la recherche de quelque chose. De temps en temps, elle rencontre un être vivant qu'elle tue sans vraiment le vouloir. Voilà. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions pour nos invités, pour Noël Sturgeon ou pour Jérôme Didelot ? C'est possible ? Oui.
Vous avez parlé des deux romans de Sturgeon. Est-ce qu'on pourrait parler aussi de la forme courte des nouvelles ? Parce que vraiment, les plus beaux textes de science-fiction que j'ai pu lire, c'était des textes, des nouvelles de Sturgeon, de Slow Sculpture, de Manolos de Scie. Enfin, il y a des textes fabuleux.
Bah, c'était principalement,
et beaucoup sont liés aussi aux questions de la connexion. L'homme seul qui essaye de trouver une connexion vers quelqu'un d'autre, que quelque personne soit humaine ou extraterrestre ou quelque chose. Donc la question de la connexion de l'amour et de qu'est-ce que c'est qu'un humain dans son rapport
laisser,
à l'autre.
Je vais laisser répondre Noël parce que c'est la plus habilitée, mais je précise juste qu'en fait on parle souvent des deux romans les plus connus, mais à vrai dire il y en a six officiellement, même s'il y a des nouvelles longues, des romans courts, on ne sait pas trop, mais officiellement il y a plutôt six romans. Voilà.
Question spécifique sur les nouvelles.
J'ai pas bien. Alors, c'était. Est-ce qu'on peut parler de la forme de la nouvelle chez Theodore Sturgeon et aussi du thème de l'interconnexion des êtres qui est lié au thème de la solitude.
Well, it's interesting because in his lifetime, he had a reputation for having writer's block. I want to do that. But when we put the complete stories together, he wrote 222 stories. So he started writing at a time where science fiction was not clearly defined. So he wrote, and he wrote in that genre because he could sell his stories. And also, it freed his imagination. It allowed him to say things that were unconventional.
Sturgeon a toujours eu la réputation d'avoir été victime de plusieurs blocages. Pardon. Sturgeon a toujours eu la réputation d'avoir été victime de plusieurs blocages, d'être resté des années sans écrire. Alors qu'en fait, lorsque Noël Sturgeon et Paul Williams ont mis sur pied le projet de l'intégrale des nouvelles qui est paru aux États-Unis, se sont aperçus qu'il avait écrit, durant toute sa carrière, 222 nouvelles, tout genre confondu. Ça fait 13 volumes, oui. Et en fait, à l'époque où il a produit de la science-fiction, c'est-à-dire il a commencé à la fin des années 30, et il n'a plus jamais cessé par la suite, mais on va dire dans les années 30, 40 et 50, le genre de la science-fiction n'était pas clairement défini, n'était pas codé, ce qui fait qu'il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Ça lui offrait une occasion extraordinaire de pouvoir parler des sujets qui l'intéressaient, c'est-à-dire l'humain.
So some of the ones I've mentioned actually are not really, they have no science fiction element in them. But the imagination is is very wild.
Certaines des nouvelles qui ont déjà été évoquées ici n'ont strictement rien à voir avec la science-fiction, mais à chaque fois, on y trouve l'imagination de Sturgeon qui se donnait totalement libre cours.
So he wrote stories that now would be called horror stories. He wrote fantasy stories. He wrote science fiction stories, and he wrote what you might call, I don't know, literary stories. Although he didn't like that division and suffered his whole life because science fiction was seen as a lesser genre. So that's when he came up with Sturgeon's Law, 90% of everything is crap.
Donc il a écrit ce qu'on appelle aujourd'hui de la science-fiction, ce qu'on appelle aujourd'hui de l'horreur, ce qu'on appelle aujourd'hui de la fantasy, ce qu'on pourrait appeler aussi la littérature blanche. Mais cette catégorisation lui déplaisait parce que la science-fiction était perçue comme un genre inférieur. Donc c'est pour ça qu'il a fini par dire qu'il écrivait des Sturgeon Stories, des histoires de Sturgeon. Non, c'est pas ça qu'elle a dit?
Non, il a donné sa définition, c'était la Sturgeon's Law, pardon.
Et donc c'est
90% de toute production artistique, je traduis littéralement, c'est de la merde.
Voilà. Parce qu'on en a discuté, tout à l'heure, en fait, ça s'appelle la révélation de Sturgeon, mais plus personne ne le sait.
Ah, d'accord.
Pardon. Donc j'ai pas compris.
He meant over historical period, the good stuff rises to the top, and that's true of every kind of cultural production.
Avec le temps, la crème monte, et c'est vrai de toute production artistique ou littéraire.
Noel, maybe you can remind us of this critic after you released the.
So after we released the complete stories, a critic wrote, reading all the stories, that Sturgeon's Law did not apply to Sturgeon.
Après la parution de l'intégrale, il y a un critique qui a écrit « La loi de Sturgeon ne s'applique pas à Sturgeon ».
But on the theme of interconnection between humanity, that was a very important idea for him. And I say in the interview in the MOOC that there is a theme that comes up very often, that the idea that if people could communicate instantly, if they could have access to everybody's skills and talents, that there would be peace and justice in the world. So this is a description, really, of the internet, is it not? But he died before that happened. It doesn't really produce peace and justice.
En fait, Noël fait une allusion à l'interview que contient le MOOC sur Theodore Sturgeon. Sturgeon pensait que si chacun de nous pouvait accéder instantanément à ce que pense et ressent l'autre, nous nous comprendrions et nous cesserions de nous entretuer. Et en fait, cet accès instantané à tout ce que peut dire ou penser un tel ou autre, c'était l'Internet que Sturgeon n'a jamais eu, et qui malheureusement n'a pas du tout donné les mêmes résultats.
And another example of that idea is the Gestalt. So this is the idea that the next step in human evolution, you see this very clearly in More Than Human, is that a group of people who have different talents and abilities together can make something more advanced than a single person can. So it's very anti-individualist and anti-competitive.
Autre exemple, c'est le Gestalt tel qu'il est défini dans le roman Les Plus Qu'Humains, théorie selon laquelle plusieurs personnes, en associant leur force mentale, leur affectivité, etc., parviennent à produire un être supérieur à ce que chacun d'eux aurait pu parvenir. Bon, c'était, j'ajoute par rapport à ce que disait Noël, c'est mentionné dans le MOOC, c'est quelque chose qui a énormément frappé les musiciens, surtout les musiciens de la Californie, de la côte ouest, parce que c'est exactement ce qui se passe quand on a un groupe qui joue à l'unisson, quand vous avez le guitariste, le bassiste, le batteur, le chanteur, qui sont parfaitement sur la même note. Et le groupe fait ce qu'aucun des musiciens n'est capable de faire tout seul.
Et plus généralement, les acteurs de la contre-culture, parce que les écrits concernés datent des années 50, ces musiciens étaient sans doute enfants, adolescents. Et après, David Crosby de Crosby, Stills, Nash & Young, Phil Lesh du Grateful Dead se sont exprimés pour dire que Les Plus Qu'Humains, c'était un livre de chevet pour toute cette communauté. Theodore Sturgeon a fréquenté Mama Cass de Mamas et Papas, Noël nous l'a raconté, Frank Zappa, Voilà, ça a été vraiment un... Parce qu'en fait, c'était un peu un décapsuleur d'esprit. Il y a des choses vraiment très en avance dans les thématiques, dans ses écrits, dans les nouvelles, qui étaient des nouvelles de genre, mais où il abordait des thèmes, la sexualité, les problèmes de communication, la solitude, voilà, la place d'un individu dans une société. Et c'est évidemment des thèmes qui ont beaucoup touché les gens de cette époque.
I think so, yes. So he was a great influence on the 60s counterculture and was widely read at that time and looked up to. And you also see that same, not quite the same, but in his work for Star Trek, the idea that people can communicate across and love each other across cultural difference. I mean, Kirk and Spock are in love, no? So that is part, I think his influence on Star Trek is partly that. Pushing that idea.
Do you want to try something? Oui, donc Noël confirme que Sir John avait une grande influence sur la contre-culture et aussi sur Star Trek, puisque l'idée s'est particulièrement développée, je crois, dans Amok Time, que des êtres qui sont différents de par leur culture, leur naissance, etc., peuvent apprendre à s'aimer, témoin Kirk et Spock. Je ne fais que traduire.
C'était la question suivante que j'allais poser. Donc, Sturgeon a temporairement, enfin à plusieurs reprises, travaillé pour la télévision et notamment écrit ponctuellement pour la série Star Trek. Est-ce que peut-être Noël ou Jérôme, vous pouvez rappeler à notre bien-aimé public des Utopiales, en quelques mots, l'apport de Sturgeon à Star Trek ?
Well, Amok Time, which is the most famous of his two Star Trek episodes, gave Spock a sex life. This was very Sturgeon-esque, indeed. It treated Vulcans as a culture, created a culture for them. So with Leonard Nimoy, he came up with the, you know, Vulcan salute. Ted came up with the live long and prosper. So it's typical of him in that he was interested in presenting a whole culture, not just, you know, Spock is sort of funny because he's logical.
Donc le principal apport, c'est dans l'épisode Amok Time où Sturgeon a donné une vie sexuelle à Spock. Mais pas seulement ça, c'est-à-dire qu'il a présenté les Vulcains non pas comme des hommes avec des oreilles pointues, mais le Vulcain, la culture Vulcain, la psychologie Vulcaine, etc. Et accessoirement, en collaboration avec Leonard Nimoy, ils ont créé le fameux signe. Et c'est Ted Sturgeon qui a inventé la phrase « Live long and prosper », « Longue vie et prospérité », qui est devenue incontournable dans toute la saga Star Trek.
And the lesser known episode, Shore Leave, where the crew finds themselves on a planet where anything that they imagine comes to life, and it's actually a vacation for them, that idea then became the holodeck for Star Trek The Next Generation.
Et l'épisode de Shore Leave, je ne me souviens plus du titre français, partie de campagne, merci, où l'équipage va se reposer, va prendre des vacances sur une planète et où vit une entité qui matérialise leurs pensées. Et cette idée-là, élaborée un peu, est devenue le holodeck, je ne connais pas le terme français, excusez-moi pour les puristes, c'est dans Star Trek The New Generation, dans Star Trek La Nouvelle Génération.
Il y a des trekkies, je ne connais pas non plus.
Yeah. And he was on the set very early. Because he was learning how to be a telescript writer. And so he knew all the cast very well. They were very fond of him. And you can see that in a sort of a joke. In the first episode, the first person that's killed, the red shirt,
yeah.
His name's Sturgeon. So they run around saying, Sturgeon's dead.
En fait, il est venu très très tôt sur le plateau pour se familiariser avec le travail qu'on lui demandait de faire. Il a fait la connaissance de toute l'équipe et donc, en conséquence, dans le tout premier épisode de Star Trek, voilà, Manstrap, c'est Sturgeon qui meurt. C'est la première chemise rouge, le premier astro qui meurt pour les besoins du scénario.
Merci. Une autre question sur les personnages qui reviennent à plusieurs reprises dans les récits de Sturgeon. Il y a de temps en temps des personnages de prodiges, des personnages de génie. Par exemple, dans la nouvelle Largo, un violoniste, alors qu'il y a un type qui a l'air d'absolument rien, Sauf que c'est un violoniste absolument extraordinaire et qui va consacrer sa vie à écrire un morceau de musique. Un autre récit qui s'appelle Le Dieu microcosmique, dans lequel là aussi une espèce de génie scientifique qui pourtant, alors le narrateur précise que c'est quelqu'un qui n'a quasiment aucune formation et qui, on ne sait pas comment, réussit à faire des inventions absolument extraordinaires. Et ces personnages sont des gens qui ont un talent dont ils ne doutent jamais et qui leur semble quelque chose de parfaitement normal. Et il m'est arrivé de me demander s'il y avait un lien entre ce personnage et le regard que Sturgeon pouvait porter sur lui-même en tant qu'écrivain. Est-ce qu'il se savait grand écrivain ou au contraire, est-ce qu'il doutait de lui?
If you allow me, Noel, there's a perfect answer to this question in the MOOC. Je rajoute en passant, je vais répondre à cette question. Ce qu'on a essayé de faire dans ce MOOC, puisqu'il y avait un numéro de Bifrost qui était vraiment aussi consacré à Theodore Sturgeon et vraiment destiné aux spécialistes, nous, on sait, outre les éléments biographiques et l'interview de Noël qui est passionnante, on a essayé de savoir pourquoi Sturgeon avait touché beaucoup de gens en dehors du milieu de l'imaginaire. Pourquoi quelqu'un comme Bertrand Tavernier, même s'il a lu beaucoup de SF, a voulu l'adapter? Pourquoi des gens comme Georges Perec ont utilisé des bribes de Cristal qui songe dans La vie mode d'emploi? Pourquoi un matin, je me suis réveillé en entendant Gérard Depardieu sur France Inter à la radio en train de dire qu'il lit du Sturgeon? Et c'était il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Donc voilà, il a vraiment touché au-delà de ça. Et d'ailleurs, dans notre MOOC, on a l'intervention de Tristan Garcia, qui est un auteur philosophe, bon, qui a écrit un recueil de nouvelles fantastiques, mais sinon qui n'est pas du tout spécialisé dans le fantastique et qui écrit de la philosophie généraliste. Il a écrit, je pense, une bonne réponse à cette question, puisqu'il a écrit sur la nouvelle Dieu microcosmique. Et je crois que c'est, si je retrouve la conclusion de son intervention, ça répond parfaitement à la question.
Alors, perfect answer.
Voilà, je crois que je l'ai trouvé. Donc, Dieu microcosmique, c'est l'histoire de ce savant qui invente, en fait, qui fabrique génétiquement une nouvelle catégorie d'êtres humains en accéléré. Il les fait évoluer très rapidement parce qu'il a besoin de s'en servir pour contrer une menace. Et donc, il devient leur dieu. Ils grandissent dans une espèce de bulle avec une atmosphère particulière et tout ça. Et en conclusion, Tristan Garcia nous dit: peut-être Sturgeon s'est-il parfois identifié en tant qu'un jeune écrivain à ce savant devenu dieu d'un peuple de néotérix, c'est leur nom, des petits personnages de papier issus de son imagination dont il savait un jour qu'il finirait par lui échapper. Et je peux laisser Noël répondre à la deuxième partie.
C'est peut-être.
Well, I think Jerome has answered part of that question. I can talk about it in a more personal way about my father. So my father never finished high school, and he was taught himself many things. He was a very learned man, read a lot of things. He was also mechanically very adept, very good. He loved to work with his hands. He could fix most anything, drive most anything, and he was his writing was a real talent, you know. But so I think he was a kind of man of all trades himself, and was fascinated with science, but not in its imperialist dominating warlike aspects. So his work would always take those parts. Like many of his characters were. I mean, Samuel Delaney says that Sturgeon is the only science fiction writer who really writes about working class characters. Everybody has a talent. Everybody can do something special.
I'm going to try to sum it up. That was a long. I'm going to read something after that. Noël Sturgeon nous dit que son père n'a pas terminé ses études secondaires. Il s'est engagé dans la vie active, comme on dit aujourd'hui. Mais c'était un homme très instruit qui savait tout faire. C'était un bricoleur, il savait réparer une voiture, il savait jouer de la guitare, etc. Et en fait, Theodore Sturgeon, c'était une grande admiration de Samuel Delaney, qui a dit que c'était le seul écrivain de science-fiction qui parlait de la classe ouvrière, qui avait des personnages qui venaient de la classe ouvrière. Donc, je résume un peu ce qu'a dit Noël. En fait, tout le monde a un talent. Que vous sortiez du troisième cycle, que vous entriez comme apprenti, vous avez tous un talent. Et d'ailleurs, ça rejoint admirablement une lettre qui est reproduite dans le MOOC. C'est une lettre d'Isaac Asimov du 24 décembre 1960 à propos de Venus plus 6. Je vais vous faire une traduction à l'arrache. Donc, il parle de Venus plus 6. Il trouve que dans cette histoire... un des personnages semble avoir des aspects autobiographiques, et voilà ce qu'il dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser que ça et là dans ce livre, vous étiez un peu dans l'autobiographie. Votre héros, on l'entend dire à un moment donné qu'il n'arrête pas de répéter que bien qu'il n'ait pas eu de formation universitaire, il était toujours à la hauteur de ses rivaux en matière de ses rivaux professionnels. Et je me suis demandé si ce n'était pas à vous-même que vous pensiez. En tout cas, je ne vous ai jamais considéré comme étant dénué de la moindre éducation. Bien au contraire, je pensais que vous étiez éduqué de façon complète, que vous le deviez à une université ou à vos propres lectures. Mais j'ai toujours été persuadé que vous étiez quelqu'un d'éduqué. Je sais que vous avez eu une vie un peu agitée, et il me vient soudain à l'esprit que peut-être vous n'aviez jamais eu le temps d'aller à l'université, et que c'était vous qui avez entendu dire ça à votre propos. Je m'excuse, c'est un peu maladroit, mais j'ai pas le temps de me relire. En ce cas, détendez-vous. En tant qu'une des personnes les plus éduquées de cette terre, je puis vous assurer que je n'arrive jamais à dire la différence dans votre cas, et je n'y suis jamais arrivé. Donc, vous voyez, Asimov dit la même chose, à sa façon maladroitement traduite par moi, c'est-à-dire que Sturgeon n'avait aucune, peut-être pas une éducation universitaire, mais en tout cas, il avait le talent et il avait l'intelligence.
Et on comprend mieux cette lettre quand on sait que Isaac Asimov était, comme on dit vulgairement, une tronche, parce que je crois qu'il était dans le programme Mensa pour les surdoués. Et le programme Mensa, j'ai appris ça à l'occasion du séjour de Noël, a été fondé par le grand frère de Theodore Sturgeon. Am I wrong? The Mensa program for people with high IQ was created, co-founded by your...
My uncle, yes.
Your uncle.
Yeah, my uncle Peter.
C'était une petite parenthèse. Donc c'est pour vous dire qu'Isaac Asimov était un peu une référence en matière intellectuelle. Hein.
Yeah. But I don't know that we've talked enough about another aspect of his work, which is his interest in sexuality. You know, he wrote the first story about homosexuality, The World Well Lost. There's a story called Affair with a Green Monkey, which is a critique of the relationship between masculinism and homophobia. There is a story called The Sex Opposite, which is really presents what you might see now as transgender people, although that word was not in his vocabulary, who are the source of all creative moments in human history, and so forth. And Venus plus X, which Jérôme has already talked about.
Il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est la sexualité dans l'œuvre de Theodore Sturgeon. Ça a été un des premiers écrivains de science-fiction, sinon le premier, à aborder le thème de l'homosexualité, avec une nouvelle dont je ne me souviens pas du titre.
Monde interdit.
Monde interdit, merci.
World Well Lost.
Et puis Le Singe Vert. Qui, dans Le Singe Vert, qui montre la relation qu'il y a entre l'homophobie et le masculinisme, c'est la fascination, l'obsession masculiniste. C'est vrai que j'ai relu Le Singe... I read The Green Monkey recently, it's fantastic. Et une autre histoire... Le sexe opposé, The Opposite Sex, c'est en fait une des premières histoires de SF où il est question des transgenres. Et en fait, tout ceci marque des feux d'artifice culturels dans le genre humain, des percées culturelles et des percées artistiques aussi. Et c'est en ce sens, c'est vrai que Sturgeon, bon, la filiation Sturgeon-Delany et Delany, tout un tas d'écrivains qui apparaissent aujourd'hui, est évidente, quoi.
Et il a poussé ça encore plus loin, un peu à l'initiative d'Arlan Ellison pour l'anthologie Dangereuse Vision en 1967, où là il a écrit une nouvelle sur l'inceste qui avait vraiment beaucoup choqué, notamment Marianne Lecomte, qui dans son, sa préface du livre d'or qu'on a reprise de façon écourtée et illustrée, voilà, nous relate un peu.
Oui, c'était une nouvelle qui s'appelait malicieusement « Si tous les hommes étaient frères, me permettrais-tu d'épouser ta sœur ?»
Et je fais une petite parenthèse, puisqu'on parlait d'Alan Ellison. Il y a un livre dirigé par Alan Ellison qui malheureusement n'a jamais été traduit en français, qui s'appelait Medea. C'était une entreprise collective, une des toutes premières du genre, où il y a tout un tas d'écrivains de science-fiction qui se sont réunis pour créer une planète avec des deux ou trois espèces différentes vivant dessus, espèces intelligentes, parfois hostiles les unes envers les autres, etc. Et il est fascinant de lire le compte-rendu des réunions préparatoires auxquelles participaient des gens comme Silverberg, Paul Anderson, Frank Herbert, je crois, et Theodore Sturgeon, qui a instillé cette dimension dans la construction de la planète. Bon, c'est quelques nouvelles ont été publiées à droite à gauche, mais le résultat total, non. Et l'apport de Sturgeon, alors c'était... la nouvelle qui s'appelait Why Dolphins Don't Bite, je ne sais pas si elle a été traduite.
I was talking about Medea Holland's world.
Right, and why dolphins don't bite.
Yes, thank you.
Yeah, so those stories, which are really, all that work is controversial, especially at the time he was writing it, but those stories are particularly controversial. But they're an example of a motto he had called Ask the Next Question. This I'm wearing the little symbol on my neck. Which is that his philosophy was that you never accept the conventional answer. If somebody tells you, well, the reason why we do this is because it's natural, he would say, you always ask, well, why? You know, what does that mean? So you always press through the sort of accepted answers to things, particularly when they are part of structures of social inequality.
En fait, la devise de Sturgeon, qui est matérialisée par un médaillon que Noël porte autour du cou et que Sturgeon lui-même portait autour du cou de son vivant, c'est poser la question suivante. N'acceptez jamais rien comme étant acquis. Quand vous demandez à quelqu'un « Mais pourquoi vous faites ça ?» et qu'il vous dit « C'est naturel », « Ah bon ?» Toujours remettre en question.
On approche de la fin de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ?
Posez la question suivante et puis on sera là encore demain, ça ne gêne pas.
Notamment.
Bonjour, j'aurais aimé vous demander si vous pensez que l'œuvre de Theodore Sturgeon a eu l'impact qu'il pensait que son œuvre aurait sur le monde.
Did your father's work had the impact on the world he thought or hoped it would have?
Well, I think that when he was older and started to meet the people in the counterculture, the musicians, the actors that were Sturgeon readers, he was surprised. He was surprised that it had such a wide impact. So I don't know that he expected that his work would change the world, but he was very pleased that people were interested in the work and had influenced them, he would be very pleased to see you all here.
Donc, il a été très très agréablement surpris quand il a rencontré les représentants de la contre-culture dans les années 70, en se rendant compte que effectivement son œuvre avait eu un impact sur eux. Il ne pensait sans doute pas que son œuvre aurait un impact sur le monde au sens large. Mais il était ravi de voir qu'elle avait un impact sur certaines gens. Et d'ailleurs, il serait ravi de vous voir tous rassemblés ici.
Merci. Une toute dernière question.
Bonjour. Je voulais me poser une question par rapport à Venus plus X, puisque c'est un roman qui a des traits narratifs communs avec La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, même s'il y a un résultat assez différent dans les deux romans, mais c'est ce qui est intéressant, bien sûr. Comment est-ce qu'il a été perçu aux États-Unis à sa sortie? Et est-ce que, quelle est un peu la vie de cet ouvrage aujourd'hui, je dirais, aux États-Unis?
La question est sur Venus plus X, qui, la dame, dit qu'il y a certaines ressemblances avec The Left Hand of Darkness. Et elle veut savoir comment le livre Venus plus X a été perçu
when it came out, and what is its status nowadays?
Well, it's considered one of his, you know, important novels. He didn't write that many novels compared to the short stories. So Venus Plus X is considered important in his work because of the way it addresses not just gender in this utopian world where there is no gender, but also the critiques of gender in a 50s suburban context.
C'est considéré comme un de ses romans les plus importants. Bon, d'abord parce qu'il n'en a pas écrit beaucoup, mais surtout parce que c'est un des premiers romans à poser la question du genre, et surtout dans le contexte des années 50.
Would you repeat the last part about the 50s?
There was part of the book is a critique of sort of 50s attitudes about gender. Voilà.
Et c'est en fait une partie. Le livre est en partie une critique de l'attitude prévalente sur le genre dans les années 1950.
So it came. That book came out the same year, I believe, as The Left Hand of Darkness, one of my favorite books. And I think that Sturgeon was very well known. So he was a lion in the science fiction community. Ursula K. Le Guin was not as well known, and she was also a woman. There was a lot of sexism in that community. So I think that his book got more attention than her book, and that may have been an issue even years later for her a little bit when I communicated with her. She was a little
touchy.
Yeah, touchy. but the books are interesting to read together, actually.
En fait, les deux livres, si ses souvenirs sont bons, sont sortis la même année. Et donc, en ce temps-là, Sturgeon était quand même une vedette dans les cercles de la science-fiction, alors que Ursula Le Guin, pas encore. Et quelques années plus tard, quand elle essayait d'entrer en contact avec Le Guin pour en parler, c'était un peu hésitant. Voilà. Et maintenant, évidemment, bon, le livre reste important, quoi.
What's interesting is the critical reception of Venus Plus X. The science fiction critics liked the part of the book that was about the sort of utopian alien world. They didn't like the critique of 50s gender.
Voilà. La réception dans les milieux de la science-fiction, c'est que les critiques spécialisées adoraient la partie utopie future et détestaient la partie critique des années 50.
Merci beaucoup. Pour conclure, je vous rappelle Cristal qui songe, que vous trouverez à la librairie. Il y a plein de bons livres dans cette librairie, mais des comme ça, pas tellement. Le numéro spécial de la revue Bifrost et dirigé par Jérôme Didelot, le MOOC consacré à Sturgeon. Merci.
Excusez-moi, celui-ci, oui. Je ne sais pas s'il est encore officiellement en circulation. Alors, on le trouve au stand d'ActuSF, mais ils vont être dévalisés.
À la librairie, on vous dira qu'il sort en janvier, mais au stand d'ActuSF, ils en ont quelques-uns.
Puisque ActuSF est le distributeur.
Merci infiniment à Noël Sturgeon d'être venu en France pour célébrer le centenaire de son père. Merci à Jérôme Didelot de s'être consacré...
Rapidement, oui, parce que j'ai oublié de le faire, je remercie beaucoup Jérôme, Vincent et Marie Marquez chez ActuSF, ce que je voulais faire au début, j'ai oublié, donc je le fais maintenant. Ils nous ont permis de diffuser cet ouvrage.
Et merci à Jean-Daniel Breck d'avoir assuré la traduction. Merci
à tous. Thank you, merci.